Bienvenue pour une heure d'émission comme d'habitude, c'est le titre. Émission préparée et animée par Paul Sud. Reprise, version différente de chansons, poèmes, sketchs, classiques, jazz. En multidiffusion sur Radio Transparence et Oxygène FM.
On y va comme d'habitude. On y va comme d'habitude. On y va comme d'habitude. On y va comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Notre sexe à pile était réputé. Aujourd'hui, sa pile est bien déchargée. Mon ampoule est morte, je n'ai plus de feu. Ouvrez-nous la porte, pour l'amour de Dieu. Peua sobieras el junia, pasos tawa sama. Bojej tatuš namaj tanku, fošje čimju mama. Bewa sobie raz žunja, pozostała sama. Bojej tatuš namaj tanku, fošje čimju mama.
Bienvenue dans cette émission comme d'habitude, qui ne sera pas totalement comme d'habitude. Il y aura bien sûr des reprises des versions différentes, comme les deux titres que vous venez d'entendre en ouverture. Mais il y aura également, vous l'avez entendu, il s'est présenté Elios Azoulay, qui dans une longue interview expliquera un peu le contexte de sa visite et surtout du concert, de la soirée qui nous a présenté à Foix, c'était le 7 septembre dernier. Alors, un petit peu particulier puisqu'en fait Elios Azoulay, clarinettiste, on va revenir sur sa présentation, compositeur de musique classique, depuis quelques années présente des concerts autour des musiques composées dans les camps de concentration nazis de la Seconde Guerre mondiale, avec toutes sortes de populations qui étaient incarcérées, bien sûr les juifs, les tziganes et toutes d'autres populations. Et il est venu à Foix le 7 septembre dernier, je précise cette date-là par rapport aux événements de ce début du mois d'octobre. Il est venu en concert le jeudi 7 à la salle 110 pour nous présenter les berceuses pour Tommy, sur lesquelles on reviendra plus tard. Et donc, moi, quand j'ai assisté à ce concert, j'ai été saisi je me suis dit qu'il fallait absolument partager avec vous ce moment, parce qu'il y avait quand même pas trop de monde ce soir-là, on va en parler juste après, et j'ai décidé donc de composer cette émission avec l'interview d'Elios Azoulay. Alors les deux titres que vous avez entendus sont deux titres extraits de CD qu'il a construit avec l'ensemble de musique incidentale, il y reprend donc toute une série de titres. Donc le premier que vous avez entendu, Au clair de la lune, il faut savoir que c'est Germaine Tillon, la française qui a été internée au camp de Ravensbrück et qui résistante, donc qui a imaginé donc ce détournement donc par rapport à ce qui se passait dans le camp. Notre sexe à pile était réputé, aujourd'hui sa pile est bien redéchargée. Mon ampoule est morte, je n'ai plus de feu, ouvrez-nous la porte pour l'amour de Dieu. Donc ça, c'était les paroles détournées de Germaine Tillon. Et juste après, vous avez entendu, c'est une petite berceuse traditionnelle polonaise, pas vraiment d'auteur, hein, une berceuse traditionnelle, et elle a été reprise au camp de concentration de Majdanek avec des paroles modifiées. Il était une fois Elidna, elle était restée seule parce que son père était à Majdanek et sa mère à Auschwitz, et les deux titres étaient chantés par Marielle Rubens, qui est la compagne d'Elio Sazoulay, mais surtout la chanteuse attitrée de cet ensemble à cordes, piano, et qui reprenait ces deux titres. Et tout ça était dans un événement donc organisé par le camp du Vernet, l'amicale du camp du Vernet, avec le relais de poche de Verniol et la Ligue des droits de l'homme, LDH, sur les mémoires de déportation, où le camp du Vernet, il le fait depuis des années, mais il présentait des œuvres picturales, des dessins faits dans le camp pendant la période d'occupation, en particulier une exposition autour de Carlos Duchâtelier, un artiste peintre haïtien, mais également d'autres, ça c'était à l'Estive, au Centre culturel, mais également les étrangers indésirables avec toute une série de dessins présentés, en particulier à OSAD, dans des expositions qui tournent. Donc voilà. Et il y avait une partie également sur la musique tzigane qui était présentée. Voilà. Donc tout ça, c'était un événement au début du mois de septembre. Et plutôt que parler trop longuement, je vous propose de rencontrer Elios Azoulay le lendemain du concert qu'il a donné, donc le jeudi 7 septembre dernier. Et laissez-vous emporter, laissez-vous porter. Je ponctuerai ça de quelques extraits de deux CD qu'il a sortis, donc avec les musiques incidentales. Il y en a un qui s'appelle Même Auschwitz et l'autre s'appelle Sauver des cendres, et deux livres, Juste avant d'éteindre et Pour Tommy, publiés aux éditions du Rocher. Elios Azoulay, c'est à vous.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Elios Azoulay et je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous. J'ai assisté au concert que vous avez donné à la salle Isabelle Sandy. Et pour vous présenter, vous avez attrapé votre clarinette. Alors, je ne sais pas si c'est une clarinette ou un suprême clairon, vous allez me noter. Et vous vous êtes présenté au public au travers de deux accords ou de deux notes au violoncelle. Et vous avez empoigné votre clarinette, votre clairon, et vous êtes présenté avec ça. Est-ce que c'est une façon habituelle de vous présenter?
Alors déjà, c'est une clarinette. Le suprême clairon, c'est autre chose. On aura peut-être l'occasion d'en parler ou même de m'entendre. Non, c'est bien une clarinette. Il me semble que, vous savez, parfois les curriculum vitae sont bien mornes, et que si vous êtes là pour savoir qui est l'homme et le musicien qui vous a convoqué, enfin en tout cas le choix que vous avez fait d'aller l'entendre, parce que la première chose qu'il a à faire, c'est au moins de dire qui il est. Le meilleur moyen pour un musicien de parler, c'est de se taire et de souffler dans son instrument. Voilà.
Oui, parce que quand on regarde un petit peu sur les présentations qu'on fait de vous dans les livres ou autres, on voit performeur post-dadaïste, spécialiste du scandale, provocateur assumé, et puis après on voit bien sûr l'artiste, le compositeur, l'écrivain. Donc c'est vous évertuez à ce qu'on ne vous saisisse pas.
Non, mais vous savez, je crois que c'est une nature. Il y a des gens qui sont solubles dans l'institution. Et moi, je crois que je suis plutôt insoluble dans l'institution. Alors, vous savez, je veux bien qu'on me mette dans un tiroir, ça ne me dérange pas, mais le tiroir est dans un sacré bordel, en tout cas.
On est d'accord. Et dans ce concert de jeudi soir, il y a un parti pris que vous avez fait. La salle était quasiment vide, hein, on ne va pas le cacher aux auditeurs. Et vous avez fait le choix déterminé, je pense que c'est vous qui l'avez fait, de faire monter les quelques spectateurs, on était 25, je crois, sur scène, et de vous adresser à ces 25 spectateurs, bien sûr, mais de vous tourner régulièrement sur la salle qui était vide. Et s'il y avait de votre part, par rapport au spectacle, quelque chose de puissant.
Oui, nous jouions donc un répertoire rare, sublime et bouleversant, qui est le répertoire des musiques composées dans les camps de concentration. Ça fait presque 15 ans maintenant que j'interprète ce répertoire avec un ensemble que je dirige. Là, j'étais en duo avec une magnifique violoncelliste qui s'appelle Anne Serion. Et oui, vous avez raison, la salle était grande. Et elle était peuplée d'absents. Donc sur ces 25 personnes présentes, il m'a semblé qu'il était plus invitant et que ça ferait beaucoup plus écho de les emmener sur scène avec nous. Et naturellement, de se tourner de temps en temps vers cette salle qui, du coup, était vide. sur notre droite, n'est-ce pas ? Et de ne pas oublier que finalement, nous jouons principalement pour les absents. Donc c'était un... Mais vous savez, il faut être honnête, il y a des musiques qui sont difficiles, il y a des répertoires qui font peur. C'est quand on voit dans les programmes, d'ailleurs vous savez, c'est difficile pour un programmateur de dire je vais jouer la musique des camps de concentration. Bon, si on accepte ceux qui n'aiment pas ce répertoire-là, qui n'ont pas envie de parler de ce sujet-là parce qu'ils n'aiment pas, et c'est vraiment tant pis pour eux, mais on ne peut rien contre la bêtise à ce point-là. Voilà. Mais il y a aussi ceux qui ont vraiment peur du sujet en pensant que ce sera un moment juste triste, sordide, morbide, alors que c'est l'exact contraire. Puisque vous étiez là au concert, Daniel, vous avez bien vu que ce moment-là était au contraire un grand moment de vie, d'existence. En bref, de musique, quoi.
Tout à fait. Et avec cette notion de distance, vous avez écrit quelque part, vous avez dit quelque part, plus juste est la distance, plus grande est la proximité.
Et j'ai dit ça peut-être ce soir-là, je ne me rappelle pas, mais je pense que oui, non, une autre fois. écoutez, oui, je crois que dans une certaine mesure, il faut nous savoir jouer et finalement nous comporter avec la distance et un certain type d'éloignement. Vous savez, finalement, je crois qu'on ne comprend jamais mieux quelqu'un qui parle une langue étrangère pour parler d'une autre distance. Je crois que les amours d'été, puisqu'on en sort à peine, vous savez, où on tombe amoureux d'une Danoise, d'une Suédoise, ou de quelqu'un dont on ne comprend pas un mot, et puis alors on s'arrange à parler plus ou moins bien avec elle. Ce sont ces amours-là qui nous laissent les sourires les plus impérissables. Ensuite, quand on parle le même langage que l'être qu'on aime, et qu'on chérit d'ailleurs, c'est là que tous les malentendus de la vie s'étalent. Donc dans une certaine mesure, oui, il y a parfois dans cette distance apparente la possibilité d'une proximité sous la mer, je dirais.
Et moi, ce qui m'a aussi troublé ce soir-là, c'est la façon dont vous avez appréhendé les incidents de ce concert. On était 25, on a réussi à faire du bruit, on a réussi à ce que des gens se lèvent au milieu du concert, on a réussi à ce qu'un téléphone vienne perturber. Et je me suis dit, quelque part, est-ce que ce n'était pas ces absents qui nous signalaient par des signes totalement improbables leur présence aussi.
Écoutez, alors ça, c'est votre propre mystique.
Dans un autre concert, j'ai vu ça aussi.
Absolument, non, mais tout à fait. Je crois vraiment qu'il faut être capable de tout accepter. D'autant plus que ce répertoire, bon après, si c'est un systématisme, c'est-à-dire si le téléphone sonne toutes les 3 minutes, il y a un moment où on ne peut pas éternellement se rattraper avec l'humour ou avec l'esprit, mais je crois qu'il faut être capable d'accepter les choses, me semble-t-il, d'autant plus que vous avez ces musiques-là qu'on joue, qui ont été composées à Auschwitz ou dans le ghetto de Vilnius, dans le ghetto de Lodz, à Treblinka, à Buchenwald. Vous savez, ce sont des musiques qui n'ont pas attendu le silence d'une salle de concert pour s'exprimer et pour dire ce qu'elles avaient à dire. Donc il faut quand même être capable, j'allais dire presque par décence, d'accepter une petite perturbation. C'est pas si grave que ça.
Et par rapport à la tonalité du concert, pour ceux que ça effraie un peu, j'aimerais bien que vous lisiez, si vous acceptez, un extrait de votre ouvrage juste avant d'éteindre, qui parle du chemin des larmes.
Un matin, j'avais fait remarquer à papa que quand on pleure, les larmes partent de l'œil, font un petit arc de cercle et finissent sur la commissure des lèvres. C'est drôle d'imaginer que les larmes arrosent pile l'endroit précis de la bouche qui sert à sourire. Après l'école, le jour même de ma découverte, j'avais écrit un petit poème, Le chemin des larmes. Les larmes qui abreuvent les lèvres, qui irriguent le rire, et le rire montre les dents, et les dents montrent le squelette, et le squelette montre la mort, et donc, la mort c'est un gâteau avec des larmes et du rire. Je l'avais lu dans la cuisine avant de dîner. Mon père avait ri. Il était fier. Il avait dit que j'étais intelligent comme un philosophe géant qui fait des bonds d'île en île.
Magnifique, magnifique. Merci. Et donc, on va passer un peu à une partie de votre œuvre, donc l'œuvre musicale, hein, puisque vous avez écrit, on reviendra un peu sur un roman qui vient de paraître, un recueil qui vient de paraître pour Toumi. Et parmi ces œuvres-là, donc, vous en avez fait deux CD avec donc un groupe qui s'appelle l'Ensemble de musique incidentale. Je vais citer les noms, Marielle Rubens, Pablo Schatzmann, Théona Karatzé, Baptiste Vey et Dimitri Vaslevski.
Absolument.
Absolument, absolument. Et donc, il y a eu plusieurs opus. Un s'appelle Sauver les cendres. Et parmi ces titres que vous avez choisis, qui ont été exhumés, il y en a un en particulier autour de Jeanne d'Arc. Voilà, donc le lien assez fort entre le camp dont il s'agit, c'est le camp de Theresienstadt ou Thérésine, exactement, et ce compositeur Victor Ullmann. Voilà, le choix de ce texte dont on va entendre quelques morceaux, enfin, quelques passages, et donc du texte et de la composition que vous en avez faite.
Oui, Victor Ullmann était un compositeur, un très très grand compositeur, élève de Schönberg, et il a été déporté à Thérésine. Et avant de finir son passage à Thérésine, et au moment où il était là-bas, nous sommes à 50 km au nord de Prague environ, il a écrit là-bas des œuvres de musique extraordinairement belles, d'une densité incroyable, mais il a laissé un fragment, deux pages pour piano, deux dérisoires pages pour piano, un prélude inachevé, pour un opéra dont il avait d'ailleurs écrit le livret, deux actes en vers rimés. Voilà. Une Jeanne d'Arc, l'œuvre s'appelle, ou aurait dû s'appeler, le 30 mai 1431. Et il y avait à la fois dans ce déséquilibre entre ces deux actes en vers rimés que j'ai traduits, que j'ai publiés dans un livre précédent, et les deux pages de piano brutalement interrompu, il y avait une espèce de contraste, non pas de contraste, de déséquilibre, une espèce d'indécent déséquilibre du silence. C'est pas un inachèvement à la Mozart quand on dit, ou un silence à la Mozart quand on dit après Mozart, le silence qui suit est encore de Mozart. Non, là, après Victor Ullmann, après cette œuvre inachevée, le silence qui suit, c'est le silence de la mort.
L'esquisse, le 30 mai 1431, l'œuvre dont parle Elios Azoulay, avec au piano Laurent Vachal, et c'est bien l'ensemble de musique incidentale. On retrouve Elios Azoulay qui poursuit sur cette œuvre de Victor Ullmann.
Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'important à réparer, et donc j'ai pris ces deux pages et je m'en suis servi, si vous voulez, comme réservoir à une œuvre nouvelle qui ressemble pour le coup à, puisque je suis compositeur vraiment, à une œuvre d'Elios Azoulay, si vous voulez, mais complètement gorgée de cette musique sublime et inachevée. Et c'était un moyen pour moi, mais très naturellement, ce n'est pas conceptuel, hein, c'était un moyen pour moi de remettre dans le jeu de la vie l'existence de ces œuvres. C'est pour ça que je dis ce sont des concerts de vie. Je dis à tous ceux qui pourraient nous entendre, tous les programmateurs, ne vous dites pas, oui, les gens vont pleurer, et deux minutes après, ils vont éclater de rire. Je veux dire que la musique, pardonnez-moi, je veux dire un peu brutalement, mais la musique, c'est la vie. Les compositeurs qui sont là, qui étaient là, qui composaient, avaient cette espèce de force sublime, éclatante de vie, d'existence, d'absorber le présent qui était de leur, le leur, et nous le rendre de manière tellement incroyable.
Thank you. Permettez, messieurs, que devant vous, savants et puissants seigneurs, un prédicateur se lève. Je suis, vous le savez bien, le confesseur des soldats. J'ai partagé tout ce qu'elle a vécu. Mon vœu sacré m'oblige à me taire et je garde le silence sur sa confession, mais croyez-moi à ce que j'ai vu chez cette jeune fille, et je ne m'incline ni devant Saint-Michel ni devant elle, est sacré et quasiment miraculeux. Je crois qu'elle voit réellement ce qu'elle proclame, et le diable n'y est pour rien, c'est de Dieu dont il s'agit. Qu'adviendrait-il de l'Église et de son enseignement si tous les enfants étaient vénérés comme des saints? Sont-ils le concile, le pape, le guide du troupeau? Ils sont comme tout le monde, ils doivent apprendre de leur maître, et ce n'est pas à toi, à moi, à nous ni à quiconque de dire ce que chacun doit savoir, mais à nos cardinaux qui le décident en conclave. L'apparence est le piège trompeur de Satan. Une fois seulement eut lieu la révélation. De Dieu ou d'autres dieux, on ne fait l'expérience. Le très ancien fondement sacré des dogmes exige que l'on brûle les sorciers. Si Jeanne tombe entre les mains de l'ennemi, la corde qui attachera les siennes est déjà tressée. Le jugement est tombé, comme les arbres terrifiants qui illuminent ses rêves. Le bûcher la condamne à une mort cruelle et son âme de sorcière maléfique sera perdue lorsque les flammes incandescentes de l'effrayante terreur des feux de l'enfer feront rôtir son corps. Celui qui continue de parler en sa faveur est lui-même un sorcier et un bavard, bientôt excommunié.
Je vous ai proposé cet extrait, donc acte 1, scène 2, ça se passe au réfectoire du synode de l'Inquisition, et l'ensemble des musiques incidentales avec Pablo Schatzmann et Theona Karatse au violon, Baptiste V à l'alto et Dimitri Machlenikov au violoncelle, avec comme récitant Elios Azoulay, donc de cette œuvre le 30 mai 1431, donc Jeanne d'Arc. Je pense que vous l'avez entendu dans les propos, on a entendu l'évêque Cochon qui parle d'Estivet, Martin Ladvenu. Donc ça c'est les paroles écrites par Victor Ullmann en vers et la musique donc d'Elios Azoulay comme il a expliqué juste avant, et c'est donc extrait de cet album Sauvé des cendres, hein, qui retrace donc avec cette œuvre prolongée des musiques ou des compositions faites dans les camps, et on retrouve tout de suite Elios Azoulay dans cette interview.
Je vais paraître, disons, un peu orgueilleux, mais c'est ce qui fait que ce concert est un moment unique.
Tout à fait exceptionnel.
Merci beaucoup, c'est au-delà de mes espérances, mais je le crois vraiment. C'est vraiment un moment d'intensité, mais parce que c'est un moment de présence réelle. Ce n'est pas un moment morbide, ou honnêtement, mon concert est mille fois moins morbide qu'un pianiste qui vient nous annonner Chopin, Mozart et Beethoven pour la millième fois de sa vie. Hein.
Ou Wagner.
Alors
je vais renvoyer, je ne vais pas les lire forcément, mais les pages sur Wagner que vous faites juste avant d'éteindre, assez savoureuses. Et pour situer juste le contexte, donc c'était un temps très particulier. Thérésine, donc, c'est la malédiction du don, puisque Thérésine, c'est pour offrir, je vous cite, en hommage à la monumentale Marie-Thérèse d'Autriche, son fils Joseph II, empereur du Septentrion romain germanique, pose un doigt autour du sud de Prague, à 60 km, et ordonne d'y faire ériger une citadelle. Donc ça, c'est l'histoire de la ville de Thérésine, qui a été accaparée par les Allemands, et qui en ont fait un ghetto dans lequel ils mettaient des Pragois, mais également des Juifs qui venaient du camp, ou d'autres personnes. Et le contexte est quand même assez particulier pour écrire de la musique. On va voir après qu'il y en a qui dessinaient, quand on voit le contexte dans lequel ça se déroulait.
Vous avez fait référence à deux livres, publiés tous deux aux éditions du Rocher. La première lecture que j'ai faite tout à l'heure, où vous disiez qu'il y avait encore des pages à lire sur Wagner, c'est un roman qui s'appelle « Juste avant d'éteindre ». Et dans l'année qui a suivi cette écriture, je publie toujours aux éditions du Rocher, il est sorti au mois de janvier dernier, un livre intitulé « Pour Tommy », qui est un recueil, un livre pour enfants, dessiné par un homme,
Friedrich Fritta, qui était peintre là-bas pour son fils de 3 ans. Et c'est un chef-d'œuvre d'amour, de soleil, d'intensité et de joie, aussi curieux que cela puisse paraître. Et vous me demandez d'évoquer le contexte de cette époque-là, eh bien, si vous permettez, je vais donc vous lire un extrait de mon texte qui accompagne pour Tommy. L'ombre avale les juifs. Interdiction de se rendre au théâtre. Interdiction d'aller au cinéma. Interdiction d'aller au concert, ni même à une manifestation sportive. Et interdiction de posséder une radio. Interdiction de posséder un appareil photo. Interdiction de posséder un phonographe, hein, interdiction de posséder une machine à écrire, hein, interdiction de posséder un instrument de musique, interdiction d'utiliser un téléphone, et interdiction de porter une fourrure, et interdiction de posséder une paire de skis, et pas de journal, et pas de fruits, et pas de sucre, et pas de cigarettes. Interdiction de posséder un chien ou un chat. Et pas le droit de se promener dans un parc. Et on ne dit pas bonjour à un arien, même si c'est votre ami. Et si c'est votre ami, il a tout intérêt à ne pas vous dire bonjour. Couvre-feu à 8h du soir. Les juifs avalent de l'ombre. Ça dénonce à Prague. C'est le triomphe des concierges. Et dehors, l'étoile jaune. Et chez toi aussi, puisqu'elle est cousue sur toutes les vestes, toutes les chemises, toutes les robes. Même chez toi, on te désigne. Même ton miroir te dénonce.
Et dans ce contexte, des perles, des choses magnifiques ont été composées. Et en particulier, vous les présentez dans le concert de Gédéon Pastelka, des berceuses. De nombreuses berceuses ont été écrites parmi beaucoup d'œuvres. Hein, mais c'est vraiment particulièrement touchant. Donc, ce choix que vous faites aussi de présenter particulièrement ces berceuses, il naît de quoi ? Qu'est-ce que la berceuse représente ? Vous l'expliquez dans le...
Oui, la berceuse, c'est l'anti-spectacle par excellence. Et je crois qu'il y a bien un sujet pour moi, selon moi, qui surtout ne doit pas s'achever dans la forme spectacle. C'est bien ces musiques-là. Je veux dire que si on va jusqu'au bout d'un spectacle, qu'est-ce qu'on fait ? On vient habillé en pyjama rayé avec une étoile jaune et on joue la musique des camps. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Il ne s'agit pas de mettre cela en scène. Il s'agit d'accepter d'arriver sur scène dans le désordre de cette affaire qu'on a beaucoup étudié, on a beaucoup lu, beaucoup joué. Je ne sais pas, j'ai donné peut-être 200, entre 200 et 300 concerts de ces musiques-là, je ne sais toujours pas vraiment pourquoi je suis là. Et pourquoi les berceuses ? Parce que la berceuse, c'est un baume. La berceuse, c'est l'ultime survivance de la sorcellerie par la musique. La berceuse, c'est une mère ou un père qui chante pour un enfant. C'est le trajet le plus court de l'amour, le plus simple. Bon. Et parmi le répertoire de ces 5 à 7 000, même plus, partitions qu'on dénombre aujourd'hui qui ont été composées dans les camps, il y a des petites berceuses. Et croyez-moi, ces berceuses-là, elles sont bouleversantes, j'allais dire renversantes dans le sens où vous retrouvez vraiment la tête au sol et les pieds en l'air. Et j'adore. Et je crois que c'est véritablement très très poignant pour moi et pour les musiciens avec qui je les joue de les interpréter, mais également pour le public parce qu'il est renvoyé à l'amour d'un père, l'amour d'une mère, et aussi la faiblesse d'un enfant, ou même son absence. Donc je crois qu'il y a quelque chose là de très 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 beau.
Et vous avez écrit aussi, en parlant comme ça dans une citation, « Elle soulageait les enfants avec le baume d'une berceuse qui contenait un peu de lune. »
Vigala, vigala, vailleur, der Wind spielt auf der Leier, spielt so süß im grünen Ried, die Nachtigall, die singt ihr Lied. Vigala, vigala, weier, der Wind spielt auf der Leier. Vigala Verne, der Mond ist die Laterne. Er steht am dunklen Himmelszelt und schaut hernieder auf die Welt. Vigala Verne, der Mond ist die Laterne. Vigala Vine, wie ist die Welt so stille? Es stört kein Laut die süße Ruhe. Schlaf, mein Kindchen, schlaf auch du. Vigala Vile, wie ist die Welt so stille?
Vous êtes bien, décidément de mieux en mieux, dans l'émission Comme d'habitude, préparée et animée par Paul Sud, votre serviteur. Et vous savez qu'avec cette petite phrase, on est à mi-parcours de cette émission, émission spéciale, comme le sont souvent les émissions, mais vous l'avez entendu dans la première partie, c'est autour d'un événement qui s'est produit à Foix début septembre, mémoire de déportation, organisée entre autres par l'Amicale du Camp du Vernet. Je salue en particulier Raymond Kubels et toute son équipe. Donc c'était à l'Estive à Froeg, des expositions de dessins faits dans les camps, en particulier une exposition autour Carlos du Châtelier, artiste peintre haïtien engagé. Exposition que vous pouvez retrouver ici en Ariège, à Ozat et ailleurs, ces étrangers indésirables. Comme idée géniale, c'était l'invitation d'Elios Azoulay, ensemble musique incidentale, qui est venu donc faire un concert le jeudi 7 septembre, que j'ai rencontré et qui sert de fil rouge à cette émission. Et là, je viens de vous proposer donc c'est une de ces berceuses composées dans les camps. Là, c'est à Térésine, par une infirmière. On va en parler juste après. Alors juste la traduction des paroles, c'est forcément une berceuse, c'est forcément très doux, mais je pense que c'est bien de comprendre ce qu'on vient d'entendre. Vigala, c'est Wiegenlied, c'est en allemand, ça veut dire berceuse. Donc Vigala, c'est pas vraiment une traduction, mais c'est le refrain. Le vent joue de la lyre, il joue si doucement dans des roseaux verts. Le rossignol, lui, chante sa chanson. Le vent joue de la lyre, la lune est une lanterne, elle se tient dans la voûte céleste et regarde le monde en bas. La lune est une lanterne, comme le monde est silencieux, pas un bruit ne trouble le doux silence. Dors, mon tendre enfant, dors toi aussi, comme le monde est silencieux. Et c'est Ilse Weber, dont on va parler juste après, qui a composé.
Vous avez tout à fait raison. Ilse Weber était une femme qui était infirmière dans le camp de Térésine, toujours, et qui était infirmière à l'hôpital pour enfants. Mais on imagine bien qu'un hôpital pour enfants dans un camp possède rien pour soigner qui que ce soit. Donc cette femme, qui était une femme qui possédait cette dose sublime d'infini et de poésie avec elle, n'était pas une grande poétesse, vous voyez, c'était pas une grande musicienne, mais ce qu'elle avait trouvé, le seul baume qu'elle employait, c'était celle de petites chansons qu'elle composait. Elle nous a légué 8 petites choses, presque rien de musique et sublime d'infini et de tendresse. Voilà, et peut-être était-ce pour elle le seul moyen de faire du bien et de soigner l'âme de ses enfants.
Et ce qui m'a un peu manqué dans le concert de jeudi soir, pour des raisons que vous avez expliquées, c'est qu'il n'y avait pas d'interprète, notamment Marielle, qui est votre femme et qui interprète habituellement ces titres. Enfin, on l'écoutera dans ce domaine-là. Mais il y a à la fois la mélodie qui est poignante, mais également les paroles. Par exemple, vous, Unter Regenrit et la pluie tombe, c'est mignon, quoi. C'est...
Ah, pour moi, c'est même plus que ça. Pour celle-là, en plus, si c'est celle-là que vous voulez faire entendre, je veux dire, pour moi, je la trouve remarquablement belle et bien mignon dans le sens où, mais allons-y sur le mignon, non, c'est très très bien mignon. Vous avez raison, c'est mignon, c'est tendre, c'est beau, c'est souple, c'est léger, c'est délicat. Et la pluie tombe, Unt der Regen rinnt, Unt der Regen.
Je pense à toi dans le noir, mon enfant. Hautes sont les montagnes et profonde la mer. Mon cœur est fatigué et lourd de désir. Et la pluie tombe et la pluie tombe. Pourquoi es-tu si loin, mon enfant ? Et la pluie tombe et la pluie tombe. Dieu lui-même nous a séparés, mon enfant. Tu ne verras ni chagrin ni misère. Tu ne marcheras pas dans les rues pierreuses. Et la pluie coule. Ne m'as-tu pas oublié, mon enfant ? Unt der Regen rinnt.
Celle-là, on ne l'a pas chantée, mais on l'écoutera aussi. Stiller, le silence,
silence.
D'Alexander Volkov.
Absolument, oui. Stiller, c'est une petite berceuse qu'un enfant a composée dans le ghetto de Vilnius. Il a composé un enfant qui compose une petite berceuse. Il y a quelque chose de bouleversant, de tragique. Et c'est vraiment. Alors là, pour le coup, c'est une. Silence. Stiller, c'est du yiddish. Silence. C'est magnifique. Écoutez, je crois que c'est un des chefs-d'œuvre d'innocence et d'élégance. Je ne crois que d'innocence, très très élégant de ces musiques composées dans les
Thank you.
Stiller Stiller, composé par Alexander Volkovitsky au ghetto de Vilno, et ici interprété au piano, sans les paroles, par Elios Azoulay sur le disque Sauvé des cendres.
Une autre berceuse, cette fois-ci une berceuse pour le fils au crématorium.
Oui, là c'est une berceuse qui a été composée par Aaron Libeskind, donc Libeskind en plus ça veut dire l'enfant aimé, pour son fils qu'il tenait dans les bras, qui venait d'être assassiné. Dans le camp de Treblinka, et il a pu garder la dépouille de son fils avec lui toute la nuit avant qu'on ne jette le corps de ce petit gamin dans ce qu'on appelait là-bas le grill, parce qu'il n'y avait pas de four crématoire à Treblinka. On brûlait dans une espèce d'infect infâme et abject barbecue des corps par milliers, et il a, lui, ayant été gardé en vie parce qu'il fallait bien qu'il y ait quelques juifs qui s'occupent des morts et des cadavres. Il a demandé la possibilité de garder son fils avec lui toute la nuit, et il a chanté une petite berceuse. La manière dont elle est parvenue jusqu'à nous est tellement dingue, tellement délirante, tellement labyrinthique, tellement miraculeuse au milieu de cette catastrophe, que chaque note résonne comme un miracle malgré tout, mais elle est particulièrement bouleversante.
C'est aussi le cas de ce miracle, de ces dessins dont, que vous avez commencé à présenter tout à l'heure pour Tommy. Donc là, c'est une autre histoire, ce n'est pas une œuvre musicale, c'est une œuvre, pas littéraire, mais picturale. Ce sont des dessins vraiment, quand on les regarde extraits du contexte, ce sont des dessins pour un enfant qui vient d'avoir 3 ans. On voit qu'il fait pipi, qu'il fait caca, qu'il joue à l'avion, qu'il se déguise. Voilà, il y a toute la vie d'un enfant de 3 ans qu'on connaît. Et là, l'histoire du père qui a rédigé, qui a fait ce cadeau à son fils de 3 ans dans le ghetto, est particulièrement également extraordinaire qu'elle soit arrivée jusqu'à vous.
Oui, absolument. Vous savez, c'est une... Déjà, toutes les œuvres qui viennent de là-bas, qu'elles soient dessinées ou qu'elles soient musicales, puisqu'on parle, mais elles viennent à nous par un miracle dingue. Enfin, Bedřich Fryta était là-bas, donc c'était un caricaturiste pragois engagé communiste à l'époque, avant que la guerre ne le rattrape. Et bien sûr, ses origines juives, il est envoyé à Térésine. Et là-bas, les nazis lui ordonnent de prendre la direction d'un département de dessin technique. Autrement dit, toutes les semaines, il devait produire des dessins avec un autre groupe de dessinateurs et de peintres. Des dessins, vous savez, des plans, des graphiques. Enfin, la commande en tour était complètement hystérique. Il leur fallait des dessins, et notamment aussi des dessins de propagande que les nazis espéraient utiliser pour dire qu'à Térésine, il faisait bon vivre. Bon. Mais dans la clandestinité, Bedřich Fryta, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dessiné la réalité de l'existence là-bas, c'est-à-dire la faim, la soif, comment tous ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces vieillards étaient cernés par la mort, la crasse. Bon. Et il a vu son fils et sa femme qui étaient là, et puis son fils de 3 ans, le petit Tommy, qui a eu 3 ans le 22 janvier 1944. Et pour l'anniversaire des 3 ans de son fils, il lui a dessiné 52 petites aquarelles. Mais qui sont? Mais oui, c'est l'innocence complète. Je veux dire que c'est un livre, et moi je le recommande, et il ne s'agit pas là d'un argument de vente, mais c'est un livre que n'importe quel passionné d'histoire peut acheter, n'importe quel passionné de dessin peut acheter, mais également n'importe quel enfant. Je veux dire qu'on peut être un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, et offrir ce livre-là à un enfant, il ne trouvera la trace d'aucun traumatisme. Ce livre-là était une façon de donner à boire du soleil à un enfant qui n'avait rien à bouffer dans ce camp. Et c'est ça qui fait que ce livre est une grande éclaircie, si vous voulez. Il me semble, je le crois, maintenant que je le fréquente depuis pas mal de temps et que le succès de ce livre-là est très très grand et je m'en réjouis infiniment, il me semble que c'est aussi
ce qui explique cet engouement autour de ce livre, c'est que d'un seul coup, vous comprenez que la vérité, c'est l'exact inverse de ce que vous avez devant les yeux. Plus cet homme-là donne du soleil, plus vous savez que la vérité derrière est atroce. Et cette espèce de dessin qui raconte deux histoires, celle que l'homme nous donne et qu'il donne à son enfant, et en même temps, toute l'histoire qui nous cache, fait que c'est absolument dramatique, sublime et bouleversant. Et pour accompagner ces dessins, parce que je ne pouvais pas, il ne s'agissait pas de les expliquer, il fallait donner des explications historiques, bien sûr, et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Il y a un texte qui le contrepointe, si vous voulez, et ce texte-là permet de raconter l'histoire de Bedřich Fleta, de raconter l'histoire de ce petit enfant Tommy, parce que Bedřich Fleta va se faire assassiner à Auschwitz, tout simplement parce qu'on va trouver ses dessins. Et il va être déporté avec un ami peintre, Auschwitz, qui lui aussi était un peintre résistant. Ils n'ont pas avoué où ils avaient caché leurs dessins, parce que la veille de leur arrestation, ils ont su que les avaient été trouvés. Ils ont profité donc de ces 24 heures à peine pour foutre tous les dessins dans une bague. Pardonnez-moi, je dis foutre, mais on s'en fiche, parce que je pense qu'ils se disent dans ce truc-là, les babous. Non, ils ont tout foutu de manière complètement dingue, des dessins dans une malle. Bedřich Fleta a mis 300 dessins dans une malle qu'il a enterré dans la cour d'une vieille ferme. Il se fait torturer le lendemain par Eichmann lui-même qui fait le déplacement pour torturer ses peintres. Vous voyez, c'était une très très grande affaire, ce qu'on appelait l'affaire des peintres. Bon. Et personne n'avoue, aucun des peintres n'avoue ces dessins qui racontent la vérité qu'ils espéraient pathétiquement faire sortir pour que le monde réagisse. Mais vous vous rendez compte dans quelle espérance folle ils devaient être. Torturés, ils sont donc envoyés à Auschwitz. Tommy, lui, et la mère de Tommy sont mis dans un cachot de Térésine. Et trois, avec une toute petite fenêtre qui s'ouvre et qui laisse à peine un petit peu de lumière. Ils sont à 20, 25 dans un cachot comme ça. Bon. Et dans le chemin qui les mène vers Auschwitz, et où Bedřich Fleta mourra une semaine plus tard, à peine après son arrivée, ils s'avouent, les deux peintres, là où ils ont planqué leur œuvre. Et Bedřich doit dire à son ami Léo, As, il va dire, bah, écoute, voilà, c'est là où j'ai mis les dessins, tu creuses, voilà, là, ma malle avec les dessins sont là-bas. Et Léo As, c'est un mensch, comment dire, il dit, un homme, il fait une promesse de mensch, et lui dit, écoute, si jamais tu devais périr, si jamais je devais vivre, moi, après la guerre, j'adopterai ton fils, Tommy. Et c'est exactement ce qui va se passer. Léo As va survivre, Bedřich Fleta va mourir, et quelques jours à peine après la guerre, il retourne à Térésine, à Prague, n'est-ce pas? Et il retrouve le petit Tommy. La maman de Tommy était morte entre-temps, mais sa femme, elle, lui, Léo, avait survécu, elle avait sauvé le gamin. Il y avait cette femme qui était là, qui avait sauvé le gamin dans cette cellule. Et il déterre les dessins. Et tous ces dessins clandestins, dans cette malle, en dessous de tous ces dessins clandestins, et comme je vous dis, 300-400 dessins, c'est énorme, hein, c'est pas une petite manne, c'est immense, bon. Et bien, il y avait ces 52 petites aquarelles pour Tommy, qui sont un chef-d'œuvre d'amour, d'héritage, et il faut l'acheter.
Et vous avez rencontré le fils de Tommy récemment, qui vous a montré, qui vous a fait toucher avant que les gants, soient indispensables pour le
Absolument.
Toucher. Oui. C'est une autre histoire. Alors, pour terminer, ou peut-être pour prolonger, le rire est important. Hein, vous l'avez dit, vous l'incarnez sur scène, cette joie de vivre, c'est ce fait qu'il faut faire vivre ces dessins, non pas les considérer comme des reliques, ces dessins, ces œuvres et autres. Et après, vous avez-vous, dans votre ressenti de l'époque, vis-à-vis des bourreaux, vis-à-vis des nazis, une technique pour les déstabiliser, ou en tout cas pour faire... pour vraiment dire ce qu'ils sont, mais aussi au-delà de ce qu'ils sont, au niveau des noms. Ce que vous faites avec les noms de ces effectivement personnages qu'on connaît, Eichmann, etc., ou Mengele, oui. Je pense que sur Mengele, il y a vraiment... Vous avez choisi de vraiment de dire qu'il faut oublier leurs noms pour reprendre les noms de tous ces personnes.
Vous savez, je crois que si demain on faisait un micro-trottoir dans la rue et qu'on demandait aux citoyens de donner le nom d'un terroriste, par exemple, du Bataclan, ou de ce qu'on a vécu. Parlons de quelque chose de proche de nous. On connaît ces noms-là. Par contre, je suis certain
rédaction demande le nom d'une victime, personne n'est capable de donner le nom d'une seule victime. Des attentats qui ont arraché la France à sa chouette tranquillité quand même. Parce qu'on était vraiment bien avant ça. C'est pareil avec les nazis. Je crois qu'on les connaît, ces nazis. Ça va, c'est bon, on les connaît. Hein. Fayard nous republie Mein Kampf avec des notes de bas de page, comme si c'était l'alpha et l'oméga de ce qu'il fallait faire. Je trouve que c'est une honte abjecte. Et croyez-moi, les quelques survivants qui restent de la Shoah, d'Auschwitz et d'autres camps ne se réjouissent pas de ce qui fait tant exulter quelques historiens en mal de nous dire et de nous préciser que Mein Kampf, c'est un livre de gens pas bien. Bon. Ok, très bien. Donc moi, je pense qu'il y a des choses qui doivent finir dans l'oubli et même un peu les abîmer. Et je préconise, oui, d'écrire les noms avec des fautes d'orthographe. Vous savez, mais je vais vous dire qu'est-ce qui m'a donné ce truc-là. J'étais en train de composer une pièce à quoi tu racontes que j'ai dédiée d'ailleurs à une femme que j'adorais qui s'appelle Violette Jacquet Silberstein. Elle était violoniste dans l'orchestre d'Auschwitz. C'était une très belle amie. Et j'ai composé pour elle une pièce qui s'appelle La rêverie de Mengele. Alors, ce n'était pas du tout un hommage à Mengele, bien au contraire, si vous voulez, c'était même un anti-hommage. Et c'est une pièce qu'elle a entendue, qu'elle a adorée. Enfin, j'étais très heureux de cette amitié avec elle. Et simplement, au moment de ma composition, que je composais, le manuscrit était sur mon bureau, et il y a un gamin qui passe, tout petit à l'époque, qui venait l'apprendre à lire, et qui passe devant le manuscrit de cette œuvre. Et il y avait marqué, donc, moi j'avais noté La rêverie de Mengele. Et mon fils me demande avec sa petite voix, son innocence sublime, il me dit « Papa, c'est qui Mange-le ?» Et ça, j'ai trouvé ça superbe. Vraiment, ça suffit. Redonnons et remettons dans le jeu de la vie celles et ceux qu'on n'a pas le droit d'enterrer par l'oubli. Les morts ne sont pas morts pour qu'on les enterre à coup d'oubli. Et enfouissons et salissons autant que faire se peut le nom de ces tortionnaires et ces assassins qui ne méritent absolument pas qu'on soit si précis que ça, avec même l'orthographe de leur nom.
On va terminer cette émission un peu exceptionnelle avec toujours Elios Azoulay qui va nous lire un extrait de son livre « Juste avant d'éteindre ». On a entendu parler également de « Pour Tommy ». Je vous conseille de lire et d'écouter aussi l'ensemble des musiques incidentales, même Auschwitz et « Sauver des cendres » dont on a entendu quelques extraits. Et juste après Elios Azoulay, on conclura avec une berceuse chantée par Marielle Rubens. Ça s'appelle « Ukolebavka ». À très bientôt sur Radio Transparence et Oxygène FM.
Je me suis assis au piano. Ont retrouvé le chemin d'une des romances sans parole de Mendelssohn, l'andante de l'opus 102. Une œuvre qui ne fait de mal à personne. Ut majeur, les touches blanches, le génie de Do Re Mi Fa Sol La Si Do, c'est tout. C'était pour nettoyer. J'ai hésité, l'œuvre du début à la fin, comme si elle était en train de naître. C'est comme ça que tout devrait s'interpréter, oui, dans l'hésitation de l'être.
Ah, jeda dei malički, slunečko už davno spi, žadni ptaček už ne spiva, Mesiček se z nebe diva, vše na zvete je. Tiche, tichunke, a jejda tej malički, matička u tebe bdi. Ani slunce tak ne chejje, jako když se matka smeje, na to dite zví. Aj, jej maličký.